Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable. Nous allons parler essentiellement Formule 1, rugby et football. Je vous présente nos invités. Grégory Sigre, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec Eric Figuère.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. Et Sébastien Baldovini.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. On va commencer bien évidemment par ce qui a fait l'actualité de la nuit. J'avoue que je me suis couché très très tôt ou très très tard cette nuit pour suivre bien évidemment le dernier Grand Prix de la saison. C'était du côté d'Abu Dhabi et le sacre de Lando Norris qui est devenu à 26 ans champion du monde. C'est le 11e champion du monde britannique. Grégory, vous l'annonciez sur notre plateau que Lando Norris serait champion du monde. Vous n'étiez pas trompé. D'ailleurs, vous avez mis une petite chemise couleur McLaren.
Couleur papaye même, comme on surnomme les McLaren.
Exactement.
Oui, oui, bah, effectivement, je l'avais annoncé il y a deux semaines que j'étais venu. Et également, je me rappelle en pré-saison, quand on m'avait demandé les paris, j'avais dit McLaren et Norris. Mm-hmm. Donc, malgré tout le scénario de la saison, je ne m'étais pas trompé. Mm.
Qu'est-ce qu'on retient de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, le Grand Prix, je pense, le plus lent pour Lando Norris, qui a conduit au milieu de la route pendant une heure et demie, quoi.
Ça a été très compliqué pour lui. Il se fait dépasser dès le début par son coéquipier, donc ça le met en termes de points en insécurité. Et surtout, il avait Leclerc derrière qui, pendant la majeure partie du Grand Prix, lui a vraiment collé dans les roues arrière, quoi. Mm-hmm. Et il suffisait que Leclerc arrive à le dépasser, il n'était pas champion. Ouais. Donc ça s'est vraiment joué pendant toute la course. Il fallait quand même avoir beaucoup de sang-froid pour arriver au bout. Surtout, on a vu, je pense qu'on en reparlera après, mais une manœuvre un peu douteuse de Tsunoda pour l'empêcher de dépasser.
Oui. Il a été sanctionné,
mais si c'était allé au carton, Tsunoda peut être toujours sanctionné de 5 secondes. L'autre perd un championnat du monde, c'est quand même pas les mêmes conséquences. Quoi.
Ouais. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde a joué le jeu, j'allais dire, jusqu'au bout, que ce soit Verstappen et Piastri, avec Norris, c'était les trois seuls qui pouvaient être titrés champions du monde, mais les trois garçons ont joué le jeu jusqu'au bout. Hein.
C'est ça.
Encore heureux.
On pouvait avoir peur, particulièrement entre Piastri et Norris. Parce que Piastri, on l'a vu, le visage très très fermé à la fin. Il avait l'ambition d'être champion, puisque la stat qui est intéressante, c'est qu'il a autant de victoires que Norris au championnat du monde. Donc il pouvait prétendre.
Et ils sont tous les deux battus au nombre de victoires.
Ils sont tous les deux battus par Verstappen. Ouais. Alors ça, c'est encore plus intéressant. Mais pour moi, c'est le plus régulier de la saison qui est récompensé dans le fond.
Il avait bien démarré la saison et puis il a réussi à la terminer proprement parce que on en parlait tout à l'heure, mais on n'imagine pas la pression qu'a supporté ce nouveau champion du monde. C'est assez exceptionnel. On se l'imagine pas, mais et ça a dû être complètement extraordinaire. Oui, il a roulé effectivement un peu plus doucement que d'habitude, c'est vrai, mais il a dû faire face, comme tu l'as dit, au premier dépassement au départ, et puis ensuite un double dépassement qu'il a réussi à faire, qui était particulièrement dangereux et qui aurait pu, là aussi, lui coûter très très cher. Puis ensuite, Tsunoda, qui l'envoie quasiment dans le gravier, il réussit à s'en sortir, et pendant 5 tours, il a fallu qu'il gère la possible sanction qui aurait pu recevoir.
Alors, il a dit à la fin de la course que son équipe ne lui a jamais dit qu'il était sous le coup d'une enquête. Ouais. Il n'était pas au courant.
C'est peut-être mieux comme ça, d'ailleurs.
Ouais. Tiens, sur la manœuvre de Tsunoda, la réaction de Norris qui sort qui dépasse en étant extérieur des limites de la piste. Comment vous avez vécu ça, Grégory? C'est justifié qu'ils ne prennent pas une pénalité?
Alors pour moi, c'est justifié puisque il y avait, si jamais il sort pas, ou il s'arrête en plein milieu de la ligne droite, ou il y a un carton. Donc il perd le championnat quoi qu'il arrive. Maintenant, Tsunoda, il joue parfaitement son rôle de coéquipier, à la limite de l'éthique et de ce qu'on peut admettre de la sportivité. Voilà.
Pérez avait été beaucoup plus habile il y a quelques années.
Là, c'était tellement gros. En plus, c'est quoi? Un virage avant, il y a son team qui l'appelle pour lui dire « Bon, fais gaffe, il y a Norris qui revient fort derrière toi. Tu sais qu'il ne faut pas qu'il passe et tout. » Et Tsunoda qui dit « Laissez-moi faire, je sais ce qu'il faut faire. » Et après, on le voit zigzaguer en plein milieu de la ligne droite. Donc c'était vraiment très très gros comme, comme manœuvre.
Quoi. Le paradoxe, c'est qu'on dit très souvent lors de nos commentaires que le règlement, c'est le règlement et qu'il est important de l'appliquer. Et très souvent, ben, on ne peut pas dire grand-chose quand l'un de nous affiche cet élément-là. Et puis ben, là, le règlement, ben, clairement... Alors, attention, hein, ne vous trompez pas, je pense qu'il était normal qu'il ne soit pas sanctionné. Mais en attendant, il a enfreint le règlement, il est sorti de la piste. Mmh. Et on voit bien que ben là, pour le coup, les commissaires de piste ont décidé qu'il avait été voilà, poussé par Tsunoda et que donc il ne méritait pas. Donc ça veut bien dire qu'à chaque fois qu'on dit « Ah ben c'est le règlement, ben c'est le règlement pur et dur », oui,
tard
ok.
Plus la dernière émission, mais... effectivement.
Et voilà, et voilà,
c'est
tout simplement.
C'est un peu pareil qu'au corner, quand tout le monde se tire sur le maillot, c'est rarement sifflé.
Voilà, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Quand il nous suffit de dire de temps en temps, ben non, il faut appliquer les règles. Ben,
c'est l'esprit et la lettre. On aime
exactement,
bien ça.
Exactement.
Après là, on en parle beaucoup, parce que le championnat se joue à 2 points.
Oui.
Mais comme on le disait hors antenne, le championnat, si McLaren avait joué en favorisant Norris, le championnat était tué. Il y a au moins 5 ou 6 grands prix.
Ouais.
Il y
avait toutes les erreurs de la saison, les accrochages.
Après, il y a Verstappen aussi. Hein.
Verstappen, par contre, il fait une deuxième partie de saison qui est stratosphérique.
Qui est pas mal, hein.
Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant l'émission. Après les Pays-Bas, il a 104 points de retard. Ouais. Et finalement, il échoue à 2 points de Norris.
Et s'il ne gagne pas les grands prix, il finit deuxième à chaque fois.
Ouais.
C'est juste hallucinant. Après, ça coïncide avec le départ de Christian Horner aussi en cours de saison, l'arrivée de Laurent Méquies.
C'est vrai.
Est-ce que ça a joué
Très certainement.
Ça, c'est possible.
Après, il y a eu, on en parlait à l'instant, mais il y a eu aussi beaucoup d'erreurs de la part de McLaren, et à l'extérieur de la piste et sur la piste. Et s'ils n'avaient pas commis, alors c'est toujours facile à dire, hein, c'est une lapalissade, hein, mais s'ils n'avaient pas commis ces erreurs quand même pour une écurie championne du monde en titre constructeur et nouvelle championne du monde encore cette année, des erreurs que seul, je vais faire hurler les tifosi, mais seul Ferrari est capable de nous apporter.
C'est vraiment dommage pour eux, mais... On s'est même demandé s'ils n'avaient pas peur de gagner à un moment.
C'est clair, oui, oui.
Sébastien, vous avez suivi cette saison de Formule 1 ?
Alors, j'ai suivi, oui, comme tout le monde, un petit peu de... j'ai pas regardé tous les Grands Prix, mais ce que je retiens, c'est vraiment voilà, Verstappen qui... Parce qu'au début, c'était plié, donc j'avouerai que j'ai pas trop regardé. Et après, quand il remontait de plus en plus, bah là, c'est bah, comme là. À bien regarder qui a gagné puisqu'ils sont tous dans un mouchoir de poche. Mais j'écoutais, je regarde et je me disais que l'année prochaine, comme ils remettent vraiment tout à plat, ça va être une sacrée saison parce que là, ça va vraiment se jouer au pilotage et plus maintenant au réglage parce que là, on s'aperçoit quand même que la partie technique est hyper importante. On en parlait tout à l'heure. Moi, ce qui me Je suis impressionné dans la Formule 1, c'est qu'on se dit « Ah ben l'autre, il est 17e ». Oui, à 2 centièmes, il est 17e. Hein. Donc, comme on disait, c'est 50 centimètres quand même. Hein, sur 5 kilomètres, c'est énorme.
Ouais, c'est ça.
Et donc, ça, je pense que ça va être bien sympa la prochaine saison.
Alors, depuis l'an dernier déjà, on a eu un peu de spectacle, parce que c'est vrai que ces dernières saisons, et quand je dis dernières, c'est un paquet de saisons quand même, c'était plutôt, alors hormis pour les ceux qui aiment la Formule 1, mais c'était un peu triste, c'était pas très intéressant.
Bon, on se dépassait dans les stands, quoi.
Et là, enfin, depuis l'année dernière, et surtout l'arrivée forcément de McLaren, hein, donc une deuxième écurie, donc ça nous a donné du spectacle. Et là, cette année encore, avec tout ce qu'on a pu raconter. Et puis espérons que l'année prochaine, ben, on ait autant de spectacles, avec peut-être une troisième, une quatrième écurie.
Qu'il faut espérer, c'est comme il y a une nouvelle réglementation, qu'on n'ait pas le même phénomène que quand il y a eu les changements de réglementation avec Mercedes et Red Bull, où il y a une écurie qui arrive à bien comprendre tous les aspects techniques, qui construit une voiture et qui, pendant 4 ans, domine tout le monde. Et là, il n'y a plus d'enjeux sportifs.
Verstappen, vice-champion du monde, c'est la fin d'un cycle, Verstappen, ou c'est juste une péripétie dans une carrière qui va le mener très très loin
Il est trop fort, et même en dehors... C'est simple. Donc, les Grands Prix, c'est à peu près tous les week-ends ou un week-end sur deux. Le week-end sur deux où il n'y a pas de Grand Prix, il va faire des courses d'endurance, il va faire du simulateur. Enfin, il est juste...
N'oublions pas qu'il était champion du monde, je crois. Il n'était même pas majeur, je crois. Ou tout juste...
C'est un extraterrestre.
Il a du temps devant lui.
C'est un jeune papa, en plus, Verstappen, qui, en plus d'être vice-champion du monde,
Et une année sans podium pour Hamilton.
Oui.
une année énorme, assez exceptionnelle. Bon, Ferrari, malheureusement, voilà, n'y arrive pas. Espérons que là aussi, on les verra un petit peu plus.
Les bons réglages cette année, Ferrari.
Et il était complètement désabusé en interview, autant en qualif qu'en Grand Prix.
Le plus désabusé, c'était quand même le futur deuxième pilote de
chez Red Bull.
Coéquipier de Verstappen, Isaac Hadjar, effectivement, qui est parti pour le coup. J'ai rarement vu un homme aussi dépité après une course. Mais on peut le comprendre.
Justement, puisque vous parlez d'Isaac Hadjar, on va parler des Français dans cette saison. Ils sont trois, Isaac Hadjar qui termine à la 12e place du championnat du monde. À la 15e place, on retrouve Esteban Ocon au volant de la Haas, qui a très bien marché en fin de saison. Et puis Pierre Gasly au volant de son Alpine, 18e, j'allais dire, seulement. Grégory, les Français dans ce championnat du monde, la surprise clairement c'est Isaac Hadjar, même si c'est une demi-surprise
C'est une belle surprise quand même, parce que c'est jamais évident de sauter le pas de la Formule 1. Il y a d'une part tout l'aspect technique, la voiture, mais également toute la pression qu'il y a autour, avec le temps médiatique que la pression mentale qu'on met sur les pilotes. Mm-hmm. Donc ça, la gérer, c'est pas évident à l'âge qu'il a. Et après, concernant les deux autres Français, Ocon, ça a été le temps que Haas finisse par maîtriser la réglementation technique qu'il y avait. Bon, c'est dommage, on en change dans trois mois. Et concernant Gasly, la saison, ça a vraiment été un long chemin de croix. J'ai pas d'autre expression pour qualifier la saison. Il s'est battu comme il a pu. Les seuls résultats que son écurie a fait, c'est lui. Ils finissent avec 22 points quand même. Ouais. Pour ceux qui le savent pas, une victoire en Formule 1, c'est 25 points. Donc c'est moins qu'une victoire d'un pilote dans la saison. Quoi.
Après, ils n'ont jamais trouvé les bons réglages.
Non.
À chaque fois, ils le disaient, ils étaient obligés de passer en 2Q1, et c'était fini. Enfin, il avait du mal à chaque fois en Q1, et ça a été la croix et la bannière. Et
puisqu'on parle d'Alpine, il faut souligner que ce matin, c'était le dernier Grand Prix d'un moteur Renault en Formule 1. Et j'ai trouvé, on a passé le son à midi, que Frédéric Vasseur, qui est le team manager de Ferrari, qui a eu des mots très sympas pour toute l'équipe de Viry-Châtillon, où on construit les moteurs Renault.
C'est pas la première
Renault.
Fois qu'il s'arrête.
Non,
mais Renault, comme d'autres d'ailleurs, espérons qu'on les reverra, mais c'est triste quand même. C'est triste de voir que en France, dans certaines disciplines, dans certains contextes, on n'arrive pas à avoir un peu plus de pérennité, à les avoir un petit peu plus longtemps. Quand on connaît la force de ce motoriste, comme Peugeot avant lui, on parlait tout à l'heure de Jean Todt. c'est pas normal.
Là après, en tant que motoriste, ça faisait quand même 50 ans qu'il y avait des moteurs de Formule 1 faits à Viry-Châtillon, donc c'est dire l'excellence de ce travail. Et la beauté ce matin aussi, c'est que pour le week-end de course, tous les employés de l'usine de Viry-Châtillon ont signé le moteur.
Le moteur.
Je trouvais que c'était un clin d'œil assez sympa, surtout que c'était la dernière fois qu'il y en avait.
La saison 2025 est terminée, on va parler déjà de la 2026, parce que dans 49 jours, c'est le début des essais privés, et puis le premier Grand Prix de la saison, c'est le premier week-end du mois de mars en Australie, avec, on le disait, une nouvelle réglementation. Grégory, vous avez des infos sur qu'est-ce qui va totalement changer l'année prochaine? La taille des voitures, la taille des pneus, il n'y a plus de DRS, c'est ça grosso modo?
Les voitures seront plus petites, donc ça devrait occasionner plus de dépassements. Il y avait eu la polémique cette année à Monaco, où il n'y avait eu, je crois, aucun dépassement. Oui. Et en fait, les voitures sont tellement larges que c'est impossible de passer à côté. Quoi. Donc là, ça devrait occasionner plus de dépassements. Le fait qu'il n'y ait plus le DRS...
Alors le DRS, pour ceux qui...
C'est l'aileron arrière, en fait. Il y a une petite plaque qui va venir s'ouvrir et qui permet que le flux d'air circule plus facilement, et donc la voiture gagne tout de suite des...
Parce qu'elle est plaquée au sol.
Et donc ça, il n'y aura plus, et ce sera fini les dépassements où il suffisait d'arriver derrière quelqu'un à peu près une seconde et le passer tout de suite comme une lettre à la poste. Quoi. Donc ça remettra un peu plus de sportivité dans le...
Ouais, plus de pilotage et moins de technique, parce que c'est vrai que souvent, ça, maintenant, ils règlent les voitures, c'est impressionnant. Du paddock.
Après, c'est bien qu'il y ait plus de technicité, qu'on ait des pilotes qui soient plus au centre de la réussite. Oui. Mais en même temps, la Formule 1, c'est aussi ça.
C'est l'excellence technique.
L'excellence technique, c'est de rechercher des solutions, c'est de créer des choses.
Le volant, il faut 10 ans pour apprendre les boutons.
C'est un ordinateur, carrément.
Il y a 15 boutons, et là, c'est pire. C'est comme un avion. Quoi.
Et il y aura une écurie supplémentaire également l'année prochaine.
Cadillac, avec des revenants, Sergio Pérez et Valtteri Bottas. C'est pas un mauvais choix de prendre des pilotes expérimentés pour se lancer, parce qu'ils sauront comment on règle une voiture, etc. Plutôt que de commencer avec des rookies, plus une nouvelle voiture, plus une nouvelle écurie, ça, ça faisait beaucoup trop de nouveautés.
Ouais.
Maintenant, on va voir, est-ce qu'ils vont vraiment venir pour s'insérer dans la bataille sportive, ou est-ce que, comme c'est une écurie américaine, la F1 est propriété d'Américains, il y a trois Grands Prix aux États-Unis, est-ce que c'est pas juste pour faire un coup commercial
Les Américains sont forts pour ça.
Seul l'avenir nous le dira. Quoi.
Un mot, je voudrais qu'on revienne sur Isaac Hadjar, parce qu'il va être le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine. Comment vous voyez les choses, messieurs? C'est trop tôt? C'est bien? C'est mérité?
C'est trop tôt.
Mais avec le nouveau règlement, je trouve que c'est bien. En plus, il le sait. Il disait dans un interview qu'il était conscient que c'était d'abord Verstappen le 1 et après lui. Après, il n'a jamais vécu. Il verra ce que c'est d'être un numéro 2 qu'on te dit de plus doubler.
Mais c'est jamais trop tôt, de toute façon. Il veut être parmi les plus grands.
Oui, voilà, il a une bonne mentalité.
Il veut gagner. Il a la chance qu'on lui offre ce baquet, donc il faut qu'il y aille. Et puis, il est présenté, et on l'a vu cette année, même s'il y a eu pas mal de difficultés quand même, il est présenté comme peut-être un futur Alain Prost. Voilà, donc évidemment, l'avenir nous le dira. Mais,
il y a encore un peu de boulot quand même.
Ah, évidemment, il y a un peu de boulot pour atteindre une telle légende, évidemment. Mais il a, et on l'a vu d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de son commentaire à la fin de la course, où quand on lui parle de la prochaine saison, justement, chez Red Bull, il est tellement dépité d'avoir été aussi mauvais qu'il se dit, il doit très certainement se dire, non, mais qu'est-ce que je vais faire chez Red Bull? Je veux pas avec des résultats pareils. Et en fait, ça prouve son caractère. Et pour gagner à ce niveau-là, on parlait d'ambition tout à l'heure, mais il faut aussi avoir un caractère plus que bien trempé. Et il semble que ce soit le cas.
Grégory, sur Isaac Hadjar chez Red Bull.
Plutôt belle saison. Il signe chez Red Bull. Rappelons qu'au tour de mise en place du Grand Prix de Melbourne, premier Grand Prix d'Australie, on le laisse en pleurs au bout du deuxième virage, parce qu'il avait encastré la voiture. Et ensuite, il finit 12e du championnat. Il signe chez Red Bull. C'est quand même une belle progression en très peu de temps. Et pour reprendre la phrase qu'il a dit en interview, c'est la première fois dans sa carrière qu'il se retrouve dans une écurie où il sait qu'il ne peut pas battre son coéquipier. Donc il vient, prendre un terme qu'on aime beaucoup ici, il vient avec beaucoup d'humilité pour apprendre chez Red Bull.
Là, il va vraiment travailler, je pense, son mental sur toute la saison, parce que là, il est dans une grande écurie. S'il fait ce qu'il fait à Melbourne, il le fait deux, trois fois, il va vite se retrouver à manger des glaces.
Il va finir avec toute la liste de coéquipiers de Verstappen, on lui souhaite pas.
Bon, là, il semblerait quand même qu'il y ait un autre personnage que ses précédents coéquipiers quand même. Après, il n'a pas le choix, il était obligé d'accepter le baquet, forcément.
Et est-ce que l'arrivée de Laurent Mickey chez Red Bull, ça a un peu changé les choses pour Isaac Hadjar, parce que c'était son
manager déjà.
Parce qu'il connaît bien le personnage et qu'il sait que s'il peut relever ce défi-là, parce qu'il il a toujours dit dans tous ses interviews que, à un moment, on pensait qu'il était arrogant, mais en fin de compte, comme tu disais, il a envie, il a faim et il le dit, quoi. C'est bien. C'est la marque des grands champions, ça, généralement.
Est-ce qu'on peut faire des petits pronostics pour l'année prochaine? Parce que vous êtes très fort, Grégory.
Ah non, là, je m'y risque pas.
Il n'a pas vu les voitures encore.
Là, on ne sait rien du tout.
Mais ceci étant, on devrait retrouver quand même les top teams.
On va retrouver le même trio de tête qu'il y a eu cette année devrait être le trio l'année prochaine, en toute logique, après.
Avec une grille, je dirais, qui est déjà bien établie. Tout le monde a sa place dans toutes les écuries.
La grille est déjà complète avant même la fin de cette saison. Oui, c'est ça. Pas souvent que ça arrive. Mais non, faire un pronostic là, trop compliqué.
Vous avez hâte que ça reprenne quand même?
Ah bah oui, après ça va laisser la place à d'autres sports dont on va parler juste après, donc parce que tout suivre, c'est quand même compliqué, ça fait des nuits pas très longues. Quoi.
C'est sûr. On va marquer une pause dans cette émission Une Semaine Sportminable, c'est la mi-temps, et on se retrouve d'ici quelques instants avec nos invités. On parlera notamment rugby et football.
RRB, c'est la pub. Pour un maximum de fraîcheur au jardin, craquez pour notre piscine Bestway 305 cm de diamètre. Du 1er au 31 décembre, elle est à seulement 12 990 francs. Dépêchez-vous de passer un été ensoleillé, les pieds dans l'eau. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici. Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio, aux 4 rue de Sébastopol, vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
Dès maintenant avec Google Pay, le paiement mobile débarque à la BNC. Enregistrez votre carte sur votre smartphone Android et payez avec votre mobile partout où vous allez. C'est simple, rapide et sécurisé. Vous allez adorer être client à la BNC. Plus d'infos sur bnc.nc. Banque de Nouvelle-Calédonie, siège social 10 avenue du Maréchal Foch, 98 849 Nouméa CEDEX, RCS Nouméa 74B 047 688, plus coût de connexion selon votre opérateur.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 17h26, tout de suite la suite de votre programme Semaine Sportmédable présenté par Lionel Sabot.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Ah mais c'est la deuxième mi-temps de cette semaine sportmédable avec nos invités Grégory Sirgue, Eric Figuère et Sébastien Baldovini. On a parlé Formule 1 au début de cette émission. On va passer au Sportco si vous voulez bien. Messieurs, on va commencer avec le rugby puisque c'était le début de la Coupe d'Europe avec 8 clubs français qui étaient engagés dans la compétition ce week-end. Je vais pas vous donner les scores parce que je voudrais pas spoiler pour notre ami Greg qui a pas encore vu le match du Stade Toulousain. À mon avis, vous allez vous régaler. Je ne donnerai pas le score, mais vous allez vous régaler. Eric, plutôt moyen pour les Français.
Une première journée dure. Difficile. Alors, comme on m'a quand même beaucoup embêté les fois précédentes, je rappelle que l'USAP a gagné son match, qui est quand même le premier de la saison avec une belle victoire. Alors, ils n'ont pas joué non plus. Ils n'ont pas joué non plus Toulouse. Hein, on est bien d'accord. Mais j'espère que ça va leur redonner un peu d'élan. Et donc, j'en profite pour parler de l'USAP. Non, une première journée difficile. Détonne un petit peu avec les autres. Voilà, je suis moins spécialiste que nos spécialistes habituels, mais qui détonne un peu par rapport aux saisons précédentes. Alors ça n'engage en rien, hein, ça ne prédit pas le résultat final, mais un peu surprenant quand même avec des défaites à domicile aussi. Voilà, donc ça pose question. On en parle très souvent sur le rythme du top 14, sur le rythme agrémenté avec les compétitions internationales, avec l'équipe de France, etc. Et peut-être aussi qu'à un moment donné, tout le monde commence à être un peu fatigué. La saison est déjà bien entamée. Et les Français, c'est toujours le cas, hein, année après année, ça n'empêche pas les clubs français d'avoir d'excellents résultats, plus que excellents d'ailleurs, quasiment parfaits, puisque si c'est pas l'un, c'est l'autre qui remporte la Coupe d'Europe. Mais là, c'était un petit peu compliqué.
Ceci étant, ça fait que 3 victoires sur les 8 matchs de la grande Coupe d'Europe. Il n'y a que 3 victoires. Pardon, je ne donnerai pas le score, mais celle de Toulouse, on ne peut pas faire autrement. Celle de La Rochelle et celle de l'Union Bordeaux-Bègles.
Toulon, c'est décevant, je trouve.
Oui. Toulon qui s'incline face à Édimbourg, 33-20. À Édimbourg.
Ouais, c'est pas folichon, mais c'est vrai que Toulon, qui dans le championnat, prouve qu'il est qu'il peut jouer peut-être une.
Ouais, mais on sent qu'il leur manque encore un petit quelque chose. Hein. C'est peut-être pas encore l'année encore pour eux, et ça se retrouve peut-être en Coupe d'Europe aussi.
Après, il y a quelques scores qui sont quand même logiques, malheureusement. La défaite de Clermont chez les Saracens, c'est pas une grosse surprise. Pau qui perd à domicile contre Northampton. Northampton, en Coupe d'Europe, ils sont toujours au rendez-vous. Ouais. Est-ce que Pau, ils sont pas en sur-régime aussi en top 14
Si je pense que d'affilée, de jouer comme ça, à ce niveau-là, deux fois, ils ont peut-être pas le turnover, et puis surtout... l'habitude de jouer comme ça.
La profondeur de banc et tout qu'il faut après. Parce qu'on peut avoir un très bon 15 de départ et en championnat faire de bons résultats. Mais après, quand il faut enchaîner les compétitions, c'est vraiment les remplaçants qui font la différence. Et là, c'est plus compliqué. Quoi.
Le retour d'Antoine Dupont à Toulouse, ça pèse, ça fait quelque chose où il n'est pas encore tout à fait au niveau pour que ça change
pas encore en condition optimale. Mais c'est normal,
ça va faire du bien à l'équipe. Il rentre, ils font ça petit à petit.
On sait qu'il apporte pas seulement sur le terrain, mais en dehors aussi. Oui, et puis, On le sait dans les sports courts, quand on a comme ça une tête d'affiche, quand on a un meneur dans tous les sens du terme, quand il est là, moi je me souviens très bien que quand le meilleur joueur manquait, même si on le remplaçait numériquement, et même si on le remplaçait par un bon joueur, pour autant, ça faisait quand même une grosse différence dans les têtes. Mmh. Et donc là, de le voir revenir, je pense que ça va aussi apporter beaucoup.
Oui, et puis avec la grosse blessure qu'il a eue, quand même, mentalement, je pense qu'il doit être, reprendre petit à petit, il doit pas lui avoir confiance à 100%, on le voit quand c'est plus le Dupont d'il y a un an. Mais il revient petit à petit, je trouve qu'entre les deux matchs où il fait, il rentre et il est pas mauvais, il est toujours là quoi.
Mmh. Et autant il va donner confiance à ses partenaires, autant il va faire peur à l'adversaire qui va mettre un marquage spécifique et un plan de jeu spécifique par rapport à lui, ce qui permet de libérer des espaces pour les autres au final. Mmh.
Mais on voit qu'il va moins en contact par contre. Ouais. Ça, comparé à avant, il était un petit peu foufou, là il va... Bon, après c'est normal.
Ça peut se comprendre.
Oui. J'aimerais qu'on détaille deux, trois petites choses sur cette Coupe d'Europe, parce que vous le savez, il y a des clubs sud-africains qui jouent maintenant la Grande Coupe d'Europe. Alors, c'est les Sharks, les Stormers et les Bulls. Trois clubs français affrontaient ces clubs sud-africains. Il y a deux victoires pour les Français, une défaite. Et pourtant, le 15 de France contre l'Afrique du Sud, on prend des claques. Et est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique?
C'est peut-être comme chez nous, ils n'ont pas que des sud-africains qui jouent dans leurs équipes.
Mais je regardais la compo des équipes sud-africaines, ils sont très nombreux à jouer.
La priorité aussi de ces pays-là est vraiment l'équipe nationale.
Ouais.
Donc, on en parle suffisamment pour parler des difficultés que l'équipe de France rencontre. Mm-hmm. Donc, là, c'est à l'envers. Hein. Et cette année, effectivement, les clubs Sudaf sont plutôt pas mal. Enfin, ce n'est que la première journée, bien évidemment. Mais on a vu que les années précédentes, depuis qu'ils sont venus dans ce championnat, c'était pas si facile que ça pour eux. Mm-hmm.
Voilà. Après, il y a le transport. Eux, ils font beaucoup plus d'avions que les autres. Ils reviennent. Enfin, ça ne doit pas être évident quand même, quand on est dans leur poule, d'y aller, de revenir.
C'est quand même... Il n'y a pas le décalage, quand même les heures de vol à assumer. Et pour les organismes, pour la récupération et tout.
Surtout qu'après, ils reviennent pour jouer leur championnat, que ce soit les deux qui vont là-bas. Ça ne doit pas être évident quand
même. Après, les équipes, effectivement, en France, c'est une majorité de joueurs français qu'il y a dans les équipes. Mmh. Là-bas, de Sud-Africains, ce qui fait la différence... Après, moi, de ce que j'en pense, c'est qu'en club, on a beaucoup d'automatisme vu qu'on joue toute l'année ensemble. Alors qu'en sélection, on se retrouve, on a eu 2 semaines pour préparer un match. Se trouver les yeux fermés, c'est beaucoup plus compliqué. Mm-hmm. Et eux, je ne connais pas par cœur le calendrier sud-africain, mais est-ce qu'ils n'ont pas, comme les provinces irlandaises, un calendrier allégé? Ce qui fait que dès qu'ils arrivent en Coupe d'Europe ou en 6 Nations ou en Coupe du Monde, ils cassent tout le monde parce que physiquement, ils sont beaucoup plus frais. Il y a peut-être de ça aussi.
Oui, je pense. Ouais,
calendrier de rugby qui va vraiment augmenter dans les semaines qui viennent, parce que le top 14, la Coupe d'Europe qui est revenue, et puis déjà, il faut penser au mois de fin janvier, début février, le tournoi des 6 Nations. Donc là, ça va enchaîner pour tout le monde. Et puis, bien sûr, ce sera après la Coupe du Monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Ces matchs de Coupe d'Europe, Eric, vous les suivez en rugby, hormis ceux de l'USAP?
Non, je ne regarde pas les matchs, malheureusement, parce qu'on ne peut pas tout voir. On en parlait tout à l'heure, il y a une actualité qui est tellement riche qu'il est difficile, sauf à ne pas travailler et sauf à passer beaucoup de temps devant la télé.
Ou
insomniaque. Mais il faut bien récupérer de nos longues journées de travail quand même. Donc non, uniquement les résultats, malheureusement.
On parle football, messieurs, si vous le voulez bien. Il y avait journée de championnat ce week-end, et puis il y aura journée Ligue des Champions dans la semaine. Alors, championnat, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est que Lens conserve la tête du classement après sa victoire 2-1 sur la pelouse de Nantes. Le Paris Saint-Germain qui reste derrière à 1 point, qui a battu Rennes 5-0. Puis derrière, Marseille... Qui décroche un petit peu.
Marseille qui est toujours aussi, malheureusement.
On va laisser Eric parler. Oui.
En tant que bon supporter de l'OM, mais qui souffre quand même depuis si longtemps.
L'USAP et l'OM.
Voilà. Et le Barça aussi, mais ça va un peu mieux, le Barça en Espagne. Oui, mais quand on est supporter, on ne s'arrête pas à ça. On n'est pas supporter seulement quand ça gagne. Merci beaucoup de le reconnaître.
Avec une équipe en Ligue 2
qui a
perdu
à
Dunkerque. Exactement.
Non, mais l'équipe de Marseille joue évidemment beaucoup mieux, ça, il n'y a pas de problème. Mais elle est encore trop inconstante. On voit qu'elle arrive à élever son niveau, même s'il n'y a pas toujours eu que 10 victoires en Coupe d'Europe. Mais on voit quand même que le niveau est différent. On en parlait tout à l'heure avec Sébastien. Ouais. Effectivement, Mais bon, voilà. Et puis là, elle joue contre une bonne équipe de Lille. Hein. C'est pas non plus n'importe qui. Perdre 1-0 à Lille, c'est pas non plus... là, pour le coup, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on voit que voilà, ce sera encore trop juste, malheureusement, même si, et tant mieux si je me trompe, mais pour moi, ce sera trop juste encore cette année. Et puis, de toute façon, l'ambition, c'est toujours la même, c'est-à-dire d'être dans les trois premiers pour jouer la Champions League. Donc, ça va être encore juste. Lens est... Là aussi, confirme son très bon début de saison. Ça joue très, très bien. Et puis, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais quand on écoute son entraîneur Sage parler, faire ses conférences de presse, expliquer comment ça se passe, pourquoi il fait des choses, comment il fait... D'abord, ça fait du bien, parce que la plupart du temps, ils n'ont strictement rien à nous dire en conférence de presse. Et ça, il faut le reconnaître. Même si on est amoureux du football depuis toujours, c'est d'une tristesse souvent absolue. Et là, au moins, lui, il a des choses à nous raconter, il a des choses à nous expliquer. Voilà, ça, c'est bien. Et puis, il gagnera pas toujours, hein, forcément, mais là, il est en tête. Alors, avoir un point d'avance sur Paris, quand on les voit écraser Rennes de cette manière-là, même si Rennes n'est pas non plus... ne jouera pas les tout premiers rôles. Mais Paris est là, Paris sera là. Il n'est pas du tout dit que Paris sera champion cette année. Hein. On a vu par le passé, ces dernières années, qu'il avait réussi à se faire taper par d'autres clubs.
Après, je pense que Lens, oui, là, ils ont leur chance, c'est qu'ils ne jouent pas la Coupe d'Europe. Quoi. Donc, eux, ils ont un match par semaine.
Ça compte, mais Paris a quand même... Paris a montré la saison précédente. Mais un banc énorme, mais regarde, ils ont eu beaucoup de blessés en ce début de saison. Aussi à la conséquence de la saison extraordinaire et surtout ultra longue de la dernière saison. Donc ça a été compliqué à gérer, la preuve. Mais on se rend bien compte qu'avec des blessés, avec un turnover, si les jeunes, pour le coup, sont assez performants, les jeunes du centre de formation, ce qui est à citer. Mais
après, je regardais, c'est surtout que Lens, l'avantage qu'ils ont, hormis qu'ils ne jouent pas en Coupe d'Europe, c'est qu'ils ont quand même 4-5 points d'avance sur le 3e et le 4e.
Oui, c'est ça.
Donc, ils ont déjà mis un petit peu de...
Ils ont 5 points d'avance sur Marseille et Lille.
Ils ont déjà mis un petit truc. Et puis, je trouve que, ils ont vraiment une belle équipe. Hein. Ça joue vraiment bien. En plus, ils ont un stade où ça va être compliqué d'aller gagner là-bas. Parce que
à Bollard, c'est quelque chose.
Je pense que c'est quelque chose.
On parle toujours de Marseille, d'ailleurs.
Ça fait partie des endroits où il faut aller au moins une fois dans sa vie.
Il y a quelques clubs en France avec des supporters extraordinaires, avec de très beaux stades, des très belles ambiances.
C'est sûr.
Dont Saint-Etienne.
Oui, on va signaler, Grégory, quand même, la victoire de Toulouse.
Contre Strasbourg.
Contre Strasbourg, week-end parfait.
Week-end parfait, puisque je sais quand même que Toulouse a gagné en rugby.
Oui, donc tout va bien. Voilà, Lando Norris
confirme
vos pronostics.
Marseille,
exactement.
On rappelle un petit peu.
Vous suivez un peu le foot, Grégory, hormis le TFC?
C'est un peu compliqué avec les différents abonnements qu'il a fallu ces dernières années quand même pour suivre la Ligue 1. Donc, surtout les résumés maintenant, parce que c'est compliqué de regarder les matchs.
Mais on peut même plus. Hein.
Oui.
Là, on peut s'abonner à Ligue 1 Plus.
Oui, mais à tous les ans, ça change.
Mais tous les ans, ça change. Donc, ça devient très compliqué à suivre.
Au bout d'un moment, on a une télécommande énorme. On a 25 000 chaînes, mais
Ça devient compliqué, les équipes hors Ligue des Champions, de suivre les matchs de Ligue 1. Ça devient quand même... c'est dommage, parce que c'est un championnat qui... Contrairement à ce qu'on en dit, qu'il y a un beau championnat qui forme beaucoup de jeunes, qui après explosent dans les autres ligues. Mmh. Et s'il n'y avait pas la Ligue 1, je pense que le niveau des autres ligues ne serait pas le même aussi.
Et on parle là des premiers, mais je regardais derrière.
C'est ce que j'étais en train de voir.
C'est chaud parce qu'ils ont 11 points, je crois.
Les deux derniers,
Les deux derniers,
Et le 16e Auxerre à 12, le Havre à 15.
Ça peut aller vite fait, se retrouve. Et là, on voit Nice qui descend. Parce que Nice,
inexorablement,
très compliqué à Nice.
Oui, alors. Nice, c'est très compliqué sportivement et extérieurement, c'est juste un enfer.
Il y a quand même, pour les gens qui sont pas au courant, les supporters qui sont allés attendre les joueurs, leur retour d'après-match pour aller leur casser la figure.
Alors, je veux pas dire, mais une année à Marseille, c'était un peu comme ça.
Voilà, ça y est, sa chambre.
Je me souviens l'avoir fait à Toulouse, mais on a cassé la figure de personne. On était venus avec des...
On peut montrer son mécontentement. Et sa déception,
c'est plaisanté, mais où moi je suis impressionné, c'est que l'entraîneur ne veut pas démissionner. Et que peut-être le problème...
Alors il a proposé sa démission.
Alors, c'est un bon entraîneur, mais je pense que ça ne marche pas trop avec ces joueurs-là. Et que là ils s'enfoncent et ils peuvent se retrouver... parce que là, je regardais contre qui ils jouaient.
Ils ont perdu contre Angers ce week-end.
Et oui,
8e défaite consécutive, toute compétition confondue.
Et Angers, ça va jouer la relégation. Enfin, ça va se bagarrer.
Ça va jouer le maintien, oui.
En fin de saison, ça va être, ces points-là vont être très importants. Et
malheureusement pour lui, il utilise tous les leviers habituels dans ces cas-là. Et on le voit d'ailleurs hein, dans toutes ces conférences de presse qu'il utilise des mots différents. Les leviers qu'on connaît, malheureusement, quand ça va mal. Mmh. Il a été sympa, il a été un peu moins sympa, il a été très dur. Et ben, il ne se passe rien. Et je pense qu'il n'est pas responsable. Mais les joueurs aujourd'hui ne suivent plus. Voilà, il se passe rien sur le terrain. Et puis, comme dans ces cas-là, si jamais il a un effectif un peu tordu, ce qui arrive, les choses qu'il a, les fameux leviers, les choses qu'il a pu dire de face caméra et en interne aussi, ont dû finir de saper son autorité. Et malheureusement pour lui, aussi bon soit-il, il a perdu, comme on dit, son vestiaire. Souvent, les entraîneurs perdent des vestiaires pour de mauvaises raisons. Là, c'est juste, je pense qu'il a pas un bon groupe. Alors, ne mettons pas tout le monde dans le même panier, bien sûr, mais il a pas un bon groupe et il va y laisser.
Il y a aussi le fait que le propriétaire sont partis à Manchester City. Ouais. Donc depuis qu'ils sont, c'est plus leur priorité. Donc.
Même au début, quand il avait que Nice, même s'il a d'autres activités dans d'autres disciplines, mais même au début, avant d'aller à Manchester, on sentait qu'il manquait quelque chose.
Ils avaient une bonne équipe, mais là, je pense que voilà, je suis d'accord avec toi, ça passe plus et que s'entêter à rester. Là, à la conférence de presse, il était quand même en train de dire que peut-être ils allaient perdre le prochain match ou faire un match nul, c'était magnifique. Hein.
Mais c'est très difficile pour l'entraîneur de dire je m'en vais, ce sera mieux sans moi. C'est très, très compliqué. C'est lui aussi un compétiteur.
C'est Antoine Camboré qui disait que ça fait partie du job. Hein. C'est qu'à un moment, il faut partir, et revenir. Peut-être qu'ils vont le rappeler du coup à Nantes, là, parce que aussi, c'est pas terrible.
C'est pas terrible. Messieurs, il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on termine cette semaine sportmidable par vos coups de cœur, coups de griffe, commentaires, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. On commence par qui ? Allez, Grégory.
Allez. Un coup de cœur à Sébastien Ogier, qui a gagné son 9e titre de champion du monde, excusez du peu, en ne courant même pas toute la saison.
Incroyable.
C'est quand même une performance. Tout à l'heure, on parlait de pilotes qui sont performants, qui performent en toutes circonstances. Là, on en a l'archétype. Quoi.
Ouais. Je ne pensais pas qu'il allait battre, enfin que Sébastien Loeb allait un jour se faire battre. Là, c'est équivalent.
Et sachant, en plus, que Ogier, court l'année prochaine, donc potentiellement, il peut aller chercher un 10e.
C'est ça. Eric,
vite fait, Lionel Messi qui gagne la MLS. Là, aux États-Unis, c'est quand même à signaler.
Lionel Messi, rappelez-nous, c'est un joueur de football.
Ce joueur argentin assez peu connu.
C'est ça, ancien joueur du PSG, non ?
qui a gagné aussi là-bas et qui apporte le titre pour la première fois. Et puis très rapidement, on a un peu évoqué le sujet, les supporters de football. Et voilà, c'est une vraie catastrophe. Alors évidemment, pas tous. Je parle de ceux qui sont incapables de se tenir dans un stade, ceux qui sont capables d'aller faire une rixe avec leurs joueurs, ceux qui ne comprennent rien à rien, et pas seulement d'ailleurs au plus haut niveau, mais aussi dans des championnats moins importants. Il arrive aussi des fois en Nouvelle-Calédonie que ce qui se passe à l'extérieur du terrain rentre sur le terrain et dégénère. On l'a vu, malheureusement, ça s'est bien calmé. Mais tous les supporters, en tout genre, c'est une vraie catastrophe et on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Mais les Anglais ont réussi, eux, à gérer les problèmes.
Sébastien.
Moi, je vais faire un petit... Je sais pas si vous avez vu, mais Maxime Grousset a encore brillé.
Évidemment.
Il est champion d'Europe. Il fait 5 médailles et c'est quand même un Calédonien, donc... chapeau bas, et c'est très bien parce que pour une fois on parle bien de la Calédonie.
Et il bat des records pour l'occasion en plus.
Tout à fait, et on sait que c'est un grand champion, et s'il n'est pas là, il n'y a pas de médaille d'or pour l'équipe de France.
Bon, allez, je vais me faire mon petit coup de cœur aussi parce que j'ai le droit finalement. On parlait de Formule 1 au début de. Non, pas Dunkerque. On parlait Formule 1 au début de cette émission. Juste un coup de cœur pour Canal+. Ils ont révolutionné le football à la télévision. Ils ont révolutionné le rugby à la télé et ils révolutionnent la Formule 1 à la télé.
Et là, il n'y a pas de débat.
Voilà.
On pourrait presque inviter Julien Febron un jour dans l'émission. S'il nous écoute.
Ouais. Et sinon, on se dit rendez-vous au premier virage. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. À très vite.
Merci beaucoup.